de la bataille de Armageddon. Je n'en parlerai pas trop longtemps parce que il n'y a pas vraiment beaucoup à dire à ce sujet. Et pourquoi pas? Eh bien, parce que la bataille d'Armageddon doit être une des batailles les plus courtes de l'histoire. C'est énorme ce qui se passe, mais ça se passe très très vite. Alors, je ne sais pas, pour le dia, c'est donc au chapitre 19, et on commence avec le dia numéro 129. Ça va aller? Merci. Donc, qu'est-ce que c'est Armageddon? Eh bien, c'est la dernière bataille. Quand Jésus finira pour toujours avec le diable et toutes les puissances du mal. Nous avons vu pendant des mois et des mois et des mois de ces études, nous étions dans la grande tribulation. Eh bien, aujourd'hui, je vous promets, nous en sortons. Et pour ne plus jamais retourner dedans. Et déjà, nous pouvons nous en réjouir d'avance. Mais qu'est-ce que ça va être pour les gens qui vont le vivre physiquement, littéralement? Comment ça se fait? Comment est-ce que cela se passe? On commence avec le verset 15. De sa bouche, il s'agit de Jésus, sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer. Il foulera la cuve de vin de l'ardente colère du Dieu puissant. Ça, c'est quand même assez effrayant. Si on lisait ça dans l'Ancien Testament, on dirait oui, dans l'Ancien Testament, Dieu se présente souvent comme un Dieu de colère et un Dieu violent. Mais nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. Nous sommes à la fin du Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, nous avons plutôt l'habitude de voir un Dieu qui est amour, qui est plein de tendresse et de gentillesse. Un Seigneur doux. Et il est tendre et doux, et rempli d'amour et de gentillesse. Sauf envers le diable. Et là, il n'y a pas de tendresse. Il n'y a pas d'amour de Dieu pour le diable. Pourquoi? La Bible dit, Dieu est un juste juge. Dieu est un juste juge. L'Éternel des armées est un juste juge qui sonde les reins et les cœurs. Donc, il ne juge pas seulement les faits. Il va plus loin. Il sonde les reins et les cœurs. Et une prophétie, un psaume prophétique, il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Donc c'est déjà prophétisé la façon de juger et la méthode de jugement est déjà prophétisée 8 siècles à peu près avant Jésus-Christ. Le psaumiste dit, tu châties les nations, tu détruis le méchant, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées, leur souvenir est anéanti. L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. Ça, ce sont des prophéties. Les psaumes, c'est 1000 ans avant Jésus. Ésaïe, c'est 8 siècles avant Jésus. Mais la parole de Dieu, la vérité de la parole de Dieu, ne change pas avec le passage du temps. Alors, quand l'apôtre Paul en parle, il emploie des autres mots, mais il dit essentiellement la même chose. Et l'apôtre Paul dit, « Le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. » Il me semble que c'est très clair. Si les textes des psaumes et d'Ésaïe sont peut-être un peu compliqués, ce que dit l'apôtre Paul est très clair. C'est très clair si on le lit et le croit littéralement. Ça devient plus compliqué si, comme certains en disent, oui, mais ce n'est pas littéral tout ça. C'est symbolique. Il n'y a aucune raison de croire que ce soit symbolique, pour des raisons que je vous ai déjà expliquées. Dans la Bible, on peut identifier le symbolique et le littéral. Et si c'est littéral, il n'y a aucune indication du contraire. Et qu'est-ce que ça veut dire, en somme, que toute résistance au gouvernement de Christ et sa direction, donc toute résistance du diable, va être complètement brisée, détruite. Et ça se fera avec la bataille de Armageddon. Jean l'a vu déjà d'avance, prophétiquement. Il dit, « Je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à cheval, qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux, jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. » Très clair. Pas besoin de commentaires, hein, c'est clair. Nous avons vu, juste pour récapituler très vite un tout petit peu, nous avons vu pendant la Grande Tribulation 3 séries consécutives, chaque fois de 7 jugements, donc 21 en tout. Nous avons vu le règne de l'Antichrist sur la terre pendant une période de 7 ans de grande tribulation. Et le climax de tout cela, le dénouement final, c'est cette bataille de Armageddon. Une défaite instantanée, totale, de l'Antichrist. Déjà, cette défaite est déjà scellée à la croix de Golgotha. À partir de ce moment-là, cette défaite est inévitable. Si Dieu patiente, Pierre nous dit pourquoi Dieu patiente, n'est-ce pas? C'est pour que le plus grand nombre possible de personnes, de pécheurs soient sauvés. Sinon, Jésus serait revenu beaucoup plus tôt. Et cela, cette bataille d'Armageddon, se passera quand Jésus reviendra sur la terre. Nous avons déjà vu qu'en somme, Jésus revient deux fois, ou certains disent en deux étapes, la première fois juste avant la grande tribulation, quand il ne vient pas sur la terre, ses pieds ne se posent pas sur la terre, il vient dans les airs, et il vient chercher les saints. D'abord, les vivants, et puis dans un clin d'œil après, les morts en Christ ressusciteront. Je voudrais voir ça, moi. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je voudrais voir ça. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais si je suis encore vivant, et cette trompette sonne, je saute dans la voiture. Et je vais au cimetière qui est à 500 mètres de l'église d'Anvers où j'ai été pasteur pendant longtemps, parce que je voudrais voir ces tombeaux s'ouvrir et ces saints ressuscités. J'ai prêché ça dans une église, quelqu'un m'a dit après, t'as pas bien compris la parole de Dieu et la raison, parce que ceux qui vivent vont d'abord monter, alors je n'aurai pas la possibilité de sauter dans la voiture. Mais la pensée est quand même formidable. Et 7 ans après ça, donc il y a l'enlèvement de l'Église, et puis il y a cette grande tribulation, et puis Jésus revient. Mais cette fois-ci, il pose ses pieds sur la terre. Il revient, assis sur un cheval blanc, avec des yeux comme une flamme de feu, nous avons lu ça la dernière fois, couronné de plusieurs diadèmes, et il précède les armées célestes qui viennent avec lui, des anges, des saints de tous les âges. Jésus lui-même en parle dans son discours qui est rapporté dans 3 des 4 évangiles. Je le lis de Matthieu. Jésus dit, aussitôt, après ces jours de détresse, donc après les jours de la grande tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Vous vous rappelez que à l'ascension, Jésus est avec ses disciples sur la montagne des Oliviers, et il monte au ciel, et les disciples le regardent. Et continue à regarder, même quand il est déjà parti si loin. Et les anges leur disent, ce Jésus qui est monté au ciel reviendra de la même façon que vous l'avez vu monter au ciel. De la même façon. Donc il ne vient pas en train, ou en avion, ou en voiture, il vient sur les nuées. Un soi-disant Messie, et il y en a dans le monde actuellement à peu près 150. Hein? Si vous en rencontrez un, demandez-lui, s'il vous plaît, comment est-ce que vous êtes arrivé. S'il dit en bus ou en train, c'est pas le vrai, n'est-ce pas? il viendra sur les nuées. Et la Bible dit, tout le monde, tout œil le verra. Ça c'est difficile, hein? Nous savons qu'il va venir sur la montagne des Oliviers, un peu loin. Comment est-ce qu'on verra ça de Boisdevillers jusqu'à là? Télévision. C'est pas farfelu, hein? Du jour d'aujourd'hui, on sait nous montrer à la télévision ce qui passe à l'autre côté du monde. On sait le montrer en direct. Ça n'était pas le cas du temps de la Bible. Ce n'était pas le cas il y a 100 ans. Mais aujourd'hui, c'est possible. C'est tout à fait possible ce que dit la Bible. Et puis, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents jusqu'à, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Donc, selon cette prophétie, homme galiléen, pourquoi arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Non seulement que nous savons comment il reviendra, mais nous savons exactement où. Quand Jésus est venu la première fois, nous savons exactement où. Dans un petit village pauvre à une 12 kilomètres de Jérusalem, petit village qui s'appelle Bethléem. Le petit village est toujours là. C'est une petite ville maintenant. Toujours pauvre. Peut-être moins pauvre que du temps de la Bible, mais toujours rien de spécial. Quand Jésus est monté au ciel, il est monté au ciel de la montagne des Oliviers. Et quand il revient, c'est sur la montagne des Oliviers qu'il posera ses pieds. Ceux qui ont été en Israël, vous vous reconnaissez. Hein? La tour là, que vous voyez, on dit que c'est de là que Jésus est monté au ciel. Comme beaucoup de fois en Israël, c'est contesté. Et un peu à côté, il y a un autre endroit d'où Jésus est monté au ciel. La Bible dit la montagne des Oliviers. On ne sait pas l'endroit exact. Juste à côté de cette tour, il y a un petit bâtiment qui, dit-on, au début était une petite chapelle. Au moment donné, les musulmans l'ont pris, la chapelle, et ils en ont fait une petite mosquée. Aujourd'hui, il n'y a presque rien qui reste, mais si vous payez l'arabe, je ne le fais pas avec des groupes, hein, parce que ce n'est pas authentique, mais si vous payez l'arabe quelques shekels qui tient ce petit bâtiment, vous pouvez entrer dans le bâtiment et voir les empreintes des pieds de Jésus juste avant qu'il ne monte au ciel. Si vous regardez bien ses pieds, ses empreintes des pieds, il chaussait de 60. Ils sont énormes. Il avait des pieds énormes. On ne sait pas exactement dire au centimètre près. Mais l'endroit est certainement juste. Montagne des Oliviers. Il descendra par le même chemin par lequel il est descendu le dimanche des rameaux. On le voit ici, hein?
Vous vous rappelez? On a mis les voitures ici, et on a fait ça, et on est descendu ici à pied. Vous vous rappelez? Jusqu'en bas, ici, tout à fait en bas, le jardin de Gethsémané. Donc, Jésus a fait ça le dimanche des rameaux. Ce chemin est toujours là, c'est pas le même asphalte, hein? On l'a refait le chemin, mais c'est toujours le même chemin qu'au temps de la Bible. Et alors, il traversera le ruisseau de Kidron, qui est toujours là aussi, bien sûr, et il montre à l'autre côté pour entrer au temple par les portes d'or. Les portes d'or c'est ici. Aujourd'hui, elles sont fermées, déjà depuis des siècles. Mais quand le temple sera reconstruit, ces portes qui étaient couvertes d'or, maintenant l'or n'est plus là, mais ces portes seront de nouveau ouvertes. Nous les avons vues, hein, quand on a été.
Et alors Jésus prendra son trône dans le temple reconstruit, d'où il régnera pendant 1000 ans. Nous allons regarder cela tout à l'heure. Oui, il y a devant les portes d'or, si on peut juste retourner, devant les portes d'or, en somme, toute la montagne des Oliviers est un grand cimetière juif. Couvert de milliers, de milliers, dizaines de milliers de tombeaux. Pourquoi? Parce que les prophéties qui disent que Jésus revient sur la montagne des Oliviers sont des prophéties de l'Ancien Testament. Donc les Juifs le croient. Et si le Messie, pour nous, c'est le retour du Messie, pour les Juifs, c'est la venue du Messie. Et si vous êtes enterrés, ils savent que quand le Messie vient, les morts vont ressusciter. Alors si vous vous faites enterrer sur la montagne des Oliviers, vous êtes au premier rang, hein? Oui, on peut rire, mais c'est ça la raison. Ils payent très cher, hein? Un terrain pour un tombeau, il paraît que ça coûte beaucoup. Alors, de l'autre côté, le Kidron, c'est tout à fait en bas. On ne le voit pas, il faut vraiment descendre. C'est une toute petite ruisseau, c'est même pas un mètre de largeur. Et du jour d'aujourd'hui, il n'y a pas toujours de l'eau dedans. Quand il a plu, il y a de l'eau dedans, mais il n'y a pas toujours de l'eau dedans. Mais l'autre côté est aussi un cimetière. Et c'est un cimetière des musulmans. Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait un cimetière là? Parce que eux aussi, ils connaissent la prophétie de l'Ancien Testament. Ils ne le croient pas, parce qu'ils ne croient pas en Jésus. Donc Jésus ne va pas venir ou revenir. Mais mettons qu'ils se sont trompés. N'oublions pas que sur la montagne là, du temple, là derrière, on voit juste la coupole, ils ont ce qu'on appelle la mosquée d'Omar. Strictement parlant, ce n'est pas une mosquée, mais c'est le lieu saint, le troisième lieu saint de l'islam. Et mettons que la Bible est vraie. Pour empêcher que Jésus entre dans le temple par les portes d'or, prophétisées dans les Écritures, ils ont mis une cimetière devant. Pourquoi? Parce que dans la loi juive, un mort est impur. Le corps d'un mort est impur. Une cimetière est impure. Et pour entrer dans le temple, il faut être pur. Donc, mettons que la Bible est vraie et que le Messie vient, il ne pourra pas entrer dans son temple parce qu'il devrait passer par leur cimetière. C'est ça l'histoire. Je ne vous raconte pas des blagues, c'est exactement ça. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas lu toute la Bible. Parce que qu'est-ce que dit la Bible? Que quand Jésus revient, il y aurait un grand tremblement de terre et la montagne des Oliviers se divisera en deux. Il y aurait une grande vallée. Alors qu'est-ce qui restera de leur cimetière? Hein? Jésus reviendra, prendra sa place dans le temple, et puis il partira pour vaincre l'Antichrist et ses armées, rassemblées du monde entier dans la vallée d'Armageddon. Je propose de lire un nombre de textes d'abord, et puis d'en tirer quelques conclusions après. Parce que la plupart de ces textes s'expliquent tout seuls. On n'a pas besoin vraiment de beaucoup de commentaires. Le juste sera dans la joie à la vue de la vengeance. Ça, c'est le langage de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Il baignera ses pieds dans le sang des méchants. Et les hommes diront, « Oui, il est une récompense pour le juste. Oui, il est un Dieu qui juge sur la terre. » Sonnez de la tempête en Sion. Faites-la retenir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant, derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden, et depuis c'est un désert affreux. Ceux qui ont été avec moi en Israël, vous vous rappelez que on a été sur la montagne du Carmel. On a monté un escalier sur un toit plat d'une petite monastère là. On a vu la vallée d'Armageddon. C'est comme un jardin d'Éden, hein, à l'heure actuelle. Une terre fertile, incroyable. Vraiment vert, tout ce que vous voulez. Mais ça va devenir comme un désert avec cette bataille. Allez voir, on dirait des chevaux. Ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de char. Remarquez que maintenant, on quitte le littéral. Hein? Vous avez remarqué? À les voir, on dirait des chevaux. Parce que c'est maintenant le prophète Joël, il a le même problème que Jean sur l'île de Patmos. Il voit dans sa vision des choses pour lesquels il ne possède pas de vocabulaire. Alors il est obligé d'essayer de décrire ce qu'il voit en se servant de mots qu'il connaît. Nous faisons la même chose, n'est-ce pas? Quand nous voyons une image, une photo de quelque chose que nous ne connaissons pas, nous ne savons pas ce que c'est, alors nous allons essayer de le décrire, nous allons dire, oui, ça a l'air de, c'est comme... Mais ce n'est pas une description littérale. Et Joël, il a le même prophète. Joël, c'est quoi? 8-9 siècles avant Jésus-Christ, je crois. Hein? Quelque chose comme ça. Donc, il n'a pas de vocabulaire pour dire qu'est-ce que ça pourrait être des chars, par exemple. Il n'a pas. Donc, il y en dirait des chevaux. Il court comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de char. Sur le sommet des montagnes où ils bondissent, on dirait un pétillement de la flamme de feu. Est-ce que ce sont des fusées ou quelque chose comme ça? Il n'a pas les paroles, les mots pour le décrire, alors il essaye avec le vocabulaire qu'il possède. On dirait un pétillement de la flamme de feu quand elle consume le chaume. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Ils s'élancent comme des guerriers, ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin, sans s'écarter de sa route. Ils ne se pressent point les uns les autres, chacun garde son rang. Une armée disciplinée, n'est-ce pas? Ils se précipitent au travers des traits sans arrêter leur marche. Ils se répandent dans la ville, courent sur les murailles, montent sur les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil, soleil et la lune s'obscurcissent. Les étoiles retirent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est puissant, est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible, qui pourra le soutenir? Zacharie ajoute, l'Éternel mon Dieu viendra, et tous ses saints avec lui. Et l'apôtre Paul dit, alors, paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira, et ceci est important, par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Il n'y a pas vraiment un combat, n'est-ce pas? Le retour de Jésus sur la terre, la Bible le dit, nous en avons déjà lu une partie de ce que dit Joël. Jésus dit une chose pareille, que son retour sur la terre sera précédé par des signes terribles dans le ciel. Ceci n'est pas le retour de Jésus pour l'Église, mais le retour de Jésus quand il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Luc rapporte le même discours de Jésus. Si vous voulez lire ce discours de Jésus, il est en Matthieu 24, en Marc 13 et en Luc 21. Et le discours, c'est le même discours. Mais un évangéliste souligne un point tandis qu'un autre évangéliste souligne un autre. Luc dit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Je me fais la réflexion que si nous sommes, comme nous sommes à la fin de la grande tribulation, les gens qui vivent sur la terre sont déjà habitués à toutes sortes de signes terribles. Mais ces signes doivent être encore plus terribles, parce que maintenant, ils ne savent plus quoi faire. Ils sont effrayés plus qu'auparavant. Et en contraste à sa venue dans les airs pour enlever son Église, quand Jésus reviendra, la Bible dit comme un voleur dans la nuit, donc inattendu, n'est-ce pas? Pas vu par tout le monde. Contraste, c'est que quand il revient sur la terre, tout œil le verra, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être par la télévision. On ne sait pas. Mais alors, le Fils de l'homme, le signe du Fils de l'homme, paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Si, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je crois que c'était la deuxième étude sur l'Apocalypse, nous avons vu dans le premier chapitre que Jésus se présente lui-même, Jésus glorifié. Et nous avons lu, voici, il vient avec les nuées. Et là aussi, il est marqué, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. C'est qui ça? Les Juifs. Littéralement les Romains, mais à l'insu des Juifs. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Ça, c'est quand même frappant, hein? On aurait dit que tout le monde devrait se réjouir. Mais non, ils ne vont pas se réjouir, ils vont se lamenter. Je vais parler de ça un peu tout à l'heure, que l'homme sera tout à fait tordu. Il l'est déjà, mais il le sera encore plus, hein? La prophétie qui dit qu'il reviendra et ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers, c'est Zacharie de nouveau. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. On ne peut pas se tromper, hein? L'endroit c'est clair. Alors la bataille aura lieu à Armageddon. Où est Armageddon? Si l'Antichrist réunit toutes les armées de la terre, ça va faire combien de troupes? Millions. Les Chinois, ils ont beaucoup de soldats. Hein? Les Russes ont beaucoup. Il faut une grande place pour rassembler un tel nombre de personnes. Et ceux qui ont été en Israël, vous me donnerez raison, il n'y a pas beaucoup de plats. C'est toutes des collines, on monte et on descend, et on monte et on descend. Il n'y a pas beaucoup de place pour rassembler une si grande foule. En somme, il n'y a qu'une place qui est grande assez. Et c'est cette vallée qu'on identifie comme la vallée de Armageddon. Bon, la Bible dit, c'est Joël de nouveau, « Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. » Ça, c'est le nom dans l'Ancien Testament. « Là, j'entrerai en jugement avec elles, au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Et en ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Megiddon. Aujourd'hui, en hébreu, cette vallée s'appelle Emek Yisrael. Emek en hébreu, c'est une vallée. Yisrael, c'est ce que nous avons lu là, la vallée de Jisréel dans la Bible. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça la vallée de Armageddon? Eh bien, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une vaste plaine très fertile et c'est devant une forteresse qui aujourd'hui peut être visitée, nous l'avons visitée d'ailleurs, mais qui du temps de la Bible était une des forteresses les principales forteresses du pays. Une ville qui avait déjà été fortifiée par les Cananéens avant que les Hébreux arrivent dans la terre promise, mais qui a été surtout fortifiée par le roi Salomon, 900 et quelques années avant Jésus. Et l'endroit où cette forteresse se trouve s'appelle Megiddo. Armageddon, le mot Ar, H-A-R, en hébreu, veut dire montagne, pas vallée, mais montagne. Donc Armageddon veut dire la montagne de Megiddo. Et ceux qui ont été en Israël, nous avons été à Megiddo. Nous avons visité la forteresse. Nous sommes même descendus dans le tunnel d'approvisionnement d'eau. Une chose formidable quand on pense que ça a été creusé 1000 ans avant Jésus-Christ. Il y a toujours de l'eau dedans. La montagne de Megiddo. Montagne, ce n'est pas les Himalayas, hein? C'est les montagnes comme les Ardennes. Mais au-dessus de cette plaine, c'est une petite montagne. Et la vallée de Armageddon, c'est la vallée devant la montagne de Megiddo. À l'époque, pourquoi cette forteresse a-t-elle été construite là? Parce qu'elle est à un lieu très stratégique. En effet, la route principale de commerce du temps de l'Ancien Testament passait, avant le temps des Romains, nous parlons du temps de l'Ancien Testament, la route principale commerciale du monde de l'Ancien Testament passait de la Mésopotamie, Babylone, en Égypte. Et ça passait par cette vallée de Jisraël. Alors celui qui a sa forteresse sur la montagne de Megiddo contrôle le passage de cette route. Comprenez? Donc un endroit avec stratégique d'une grande importance à l'époque. Et dans cette immense plaine devant la montagne de Megiddo sera la bataille finale. Antichrist aura ramassé les armées du monde qui auront déjà vaincu la plupart de la territoire d'Israël. Son but, il a déjà vaincu tout le monde. Tous les pays sont sous son règne, sauf les maudits juifs, hein, vu de son point de vue. Et l'antisémitisme est dans le monde aujourd'hui, et ça monte de nouveau. Hein. C'est dommage de le dire, mais le monde de nouveau devient de plus en plus antisémite. Je ne sais pas si vous suivez les nouvelles. Avant-hier, du moins à la télévision flamande, on annonce que les Juifs vont construire 55 maisons dans l'est de Jérusalem. C'est nouvelle mondiale. C'est pas étonnant, ça? Si la ville de Namur décide de construire 55 maisons, vous ne le verrez pas à la télévision. Même national, pas mondial. Comment ça se fait que dès qu'Israël construit une maison, tout le monde... Parce que ils le construisent à Jérusalem de l'Est, territoire que les Palestiniens veulent avoir, etc. J'entre pas dans le politique, mais ça cadre dans l'antisémitisme, n'est-ce pas? Et l'Antichrist aura déjà vaincu tout le monde. Sauf les Juifs. Il se saisira de la plupart de la territoire d'Israël. C'est comme ça qu'il pourra ramasser ses troupes dans la vallée d'Armageddon, qui est en vol d'oiseau, 70 km de Jérusalem, 60-70 km de Jérusalem. Et alors, il s'apprête maintenant à vaincre Jérusalem. Il aura déjà envoyé des troupes d'avance qui auraient déjà vaincu une partie de la ville. Mais maintenant, le grand assaut finit une fois pour toutes avec les Juifs et leur capitale et leur temple et leur Dieu. C'est ça son idée. Mais la Bible dit que Jésus, le Seigneur Jésus, le détruira par le souffle de sa bouche et l'anéantira par l'éclat de son avènement. Nous avons déjà lu en Apocalypse 14 ce qui se passe, cette bataille. La cuvée fut foulée hors de la ville et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Donc tant d'hommes mourants que leur sang coulera 1200 stades, ça c'est presque 350 kilomètres, jusqu'aux morts des chevaux. Ça c'est quand même beaucoup de sang, n'est-ce pas? Et la Bible dit que la maison d'Israël les enterrera afin de purifier le pays, un mort est impur, et cela durera 7 mois. Quand on sait que chez les Juifs, je parle maintenant des orthodoxes, un Juif qui meurt en l'enterre, si possible, en dehors les 8 heures, le plus vite possible. Chez nous, ça, on prend quand même quelques jours. Mais chez les Juifs, si possible, en dehors les 8 heures. Parce que un Juif, un mort est impur. Donc s'il meurt dans la maison, et son corps est à la maison, votre maison est impure, etc., etc. Alors ils vont les enterrer le plus vite possible. Mais même avec tous les moyens modernes, il va leur falloir 7 mois. Donc, nous parlons de millions et de millions et de millions de morts, n'est-ce pas? Ça, c'est pour les armées de l'Antichrist. L'Antichrist lui-même et son faux prophète seront jetés dans le sang, dans les temps ardents de feu et de soufre. La bête fut prise, c'est l'Antichrist, ça, avec elle, le faux prophète, ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. La bête fut prise, avec elle la faux prophète, qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps de feu et de soufre. Satan va être lié pendant 1000 ans. On reviendra là dans un instant. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et le Satan, et le lia pendant 1000 ans. Donc Armageddon est l'ultime victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur tout ce qui est satanique, antichrist. Et Armageddon vient à la fin des siècles et des siècles pendant lesquels Dieu continue à user de la patience. Mais le retour de Jésus met fin au diable. Jésus est le grand vainqueur. Et tous les orgueilleux qui pensent pouvoir lutter contre Dieu vont tomber dans cette grande bataille. Faux prophètes et la bête sont des prisonniers de guerre, si vous voulez, et ils vont être jetés dans les temps ardents de feu et de soufre. Un très grand nombre de morts, comme nous l'avons lu, des rois, des généraux, des hommes forts, les chevaux, leurs cavaliers, hommes libres et esclaves, grands et petits, et tous les oiseaux de proie sont invités à venir et à se régaler sur la chair des tombés. Je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. » On peut se poser la question, comment est-ce que les gens instruits, intelligents, peuvent être amenés à croire qu'ils sont capables de lutter contre Dieu et de gagner? Comment est-ce que des gens normaux, intelligents, éduqués, peuvent avaler une idée comme cela? Quand même difficile à comprendre, n'est-ce pas? Eh bien, l'apôtre Paul donne la réponse. Et quelle est cette réponse? Il parle de la puissance du mensonge. Oui. Je pense que dans nos églises, on ne citerait pas très souvent des gens comme Staline ou comme Hitler. Mais de ce qui paraît, Staline aurait dit, et Hitler aurait repris ce qu'il a dit, raconter un mensonge, de préférence un grand mensonge, répétez-le souvent et à tout le monde, et tout le monde finira par le croire. Et Staline et Hitler ont quand même montré qu'ils n'étaient pas loin de la vérité, n'est-ce pas? L'apôtre Paul prophétise, il parle de l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, nous l'avons déjà vu ça, se proclamant lui-même Dieu, hein, le diable qui n'est pas, qui ne veut pas que les gens sachent qu'il est le diable, alors il se présente comme Dieu. Et il arrive à séduire le monde. Il s'assied dans le temple de Dieu et il proclame que lui-même il est Dieu. Et pour convaincre, l'apôtre Paul dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Ce mot mensonger est important. Si on est chrétien, on croit aux miracles et aux prodiges, n'est-ce pas? Moi, j'y crois, moi. J'ai eu le privilège d'en voir quelques-uns au fil des années. J'y crois. Mais il y a un très, très grand danger parce que non seulement Dieu fait des prodiges, mais le diable aussi. Et le danger, c'est de ne pas discerner entre les deux. Et nous savons que le diable est à son plus dangereux quand il entre dans l'Église. Quand il travaille hors de l'Église, il est déjà dangereux. Mais s'il assiste au culte, méfions-nous. Et alors, quand des prodiges s'opèrent, discernons entre les miracles qui sont de Dieu et les miracles qui sont du diable. C'est le sujet d'une toute autre étude pour approfondir cela. Je donne seulement l'avertissement, si vous voulez bien. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce que, et c'est pour ceci qu'ils n'ont pas ce discernement, parce que ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est ça qu'il faut avoir pour pouvoir discerner. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. C'est clair. De nouveau, c'est clair. Contre ce que Satan voit comme la menace du Seigneur, du Messie, il vient avec un faux Messie, l'Antichrist, faux prophète et faux miracle. Et il réussit à séduire et à endoctriner l'humanité. Il les incite à la guerre pour se débarrasser de Dieu. Donc, le monde à l'envers, n'est-ce pas? Dieu combat le diable combat Dieu. Et il réussit à répandre ses mensonges et convaincre les masses que c'est lui le vrai, que c'est ses miracles qui sont les vrais, que c'est ses paroles qui sont les vraies. Et alors, automatiquement, si on croit cela, c'est Dieu qui est mauvais. Et c'est la parole de Dieu qui est des mensonges. Comprenez? En noir devient blanc. Alors, blanc devient noir. C'est le monde à l'envers. Et la destruction de Babylone que nous avons vue, qui en somme débute la fin de l'empire de l'Antichrist. Il a peur de tout perdre. Et quand on a peur de tout perdre, qu'est-ce qu'on fait? À la fin, on jette tout. Dans une dernière essai, une dernière bataille, Armageddon. Maintenant, il jette tout. Il n'a plus de réserve, rien. Toutes les armées du monde sont là. Mais il sera anéanti lui-même. Je crois que pour nous chrétiens, il y a quand même ici un avertissement. Un avertissement sérieux. Déjà au temps de l'Exode, où Dieu dit à son peuple, « Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu. » Nous devons faire attention, nous sommes si facilement séduits, n'est-ce pas? Un tout petit péché, ça commence petit, mais quand nous ouvrons la porte tout petit au diable, les Flamands disent, si vous lui donnez un doigt, il prend tout le bras. Hein? Comprenez ce que ça veut dire. Hein? Il doit y avoir un dicton comme ça en français. Mais les Flamands disent ça, lui donner le petit doigt, il prend tout le bras. Et si on ouvre la porte même un tout petit peu au diable, il va forcer son entrée. On ne peut pas faire trop d'attention. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Et l'arme la plus puissante du diable, c'est son pouvoir d'influencer l'esprit de l'homme. Et il a réussi énormément. Il réussit énormément. Ce sont des esprits de démons, dit la Bible, qui font des prodiges, qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. On peut se demander, les dernières décennies, il n'y a aucune paix dans le Moyen-Orient, hein? Un problème après l'autre. Surtout, depuis 1948, quand Israël, selon l'accomplissement des prophéties de la Bible, est redevenu un pays indépendant. Comment ça se fait, toute cette attention pour le Moyen-Orient? Pourquoi toutes ces guerres et toute cette violence et toute cette haine pour une petite bout de terrain grand comme la Belgique dont 60% est désertique? Il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de diamants, il n'y a rien. La seule explication, quand on réfléchit logiquement, c'est que la Bible est vraie. n'est-ce pas? Les prophéties s'accomplissent. Mais la fin est aussi prophétisée. La bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Ça, c'est la vallée, la bataille d'Armageddon. C'est un peu plus tôt, mais je pense qu'on va arrêter là, frère, parce que 10 minutes, c'est peu pour expliquer ce qui suit. On m'a toujours dit que quand on donne une série d'études bibliques, il faut arrêter quand ça devient vraiment intéressant. Comme ça, les gens reviennent la fois prochaine. Amen. Merci beaucoup de votre attention. Hein.
Merci, pasteur.
Merci.
Alors, c'est formidable. Hein. Est-ce que quelqu'un a une question? Parce que c'est vrai que par rapport à tout ce qui a été dit, est-ce que quelqu'un a quelque chose à demander? Parce que c'est vrai que nous n'aurons pas toujours le pasteur Maculaire pour répondre aux questions. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui pourrait qui demande éclaircissement finalement? Non?
Oui, c'est que David Ben-Gurion a été fort influent en
1950. Oui.
David Ben-Gurion, c'était un homme croyant, mais pas tout à fait pratiquant. Disons qu'il allait à la synagogue lors des grandes fêtes, comme si on va à l'église à Noël, etc. Mais il croyait. Et quand il a proclamé l'indépendance du pays d'Israël, il a rappelé que Dieu leur a donné cette terre. Et cela, c'est important. Pourquoi est-ce que les Juifs veulent à tout prix le désert? Hein? Je pense que les Belges, ça ne nous intéresserait pas. On ne va pas se battre pour un désert. Pourquoi? Parce que plus que n'importe quelle autre tribu, disons, nation, ils sont, comment est-ce que je pourrais dire, mariés à leur terre. C'est à eux. Et pourquoi est-ce que c'est à eux? Parce que Dieu le leur a donné. Dieu a dit à Abraham, voici, je te donne cette terre. Et nous verrons la fois prochaine ou la fois après que la terre que Dieu leur a donnée est plus grande, même beaucoup plus grande, que la terre qu'ils n'ont jamais occupée. Aujourd'hui, toute la discussion tourne autour des territoires occupés. Hein? La petite morceau de terre entre ce qui leur a été accordé par les Nations Unies et le Jourdain. Donc, ce qu'ils ont pris aux Arabes en 67. Où les Palestiniens, soi-disant, veulent établir leur propre État. Tout tourne autour de là. Les Juifs qui ne sont pas trop croyants, disent, oui, occuper leur État à eux, comme ça nous avons la paix. Mais la majorité dit non, c'est à nous. C'est à nous. Dieu nous l'a donné. La politique et la religion ne font pas toujours bon ménage. Et c'est ça le problème. Il y a des autres choses. Il y a beaucoup à dire là-dessus, aussi du côté de la politique. Et je ne vais pas entrer là-dedans. On pourrait parler pendant des heures là-dessus. Je dirais seulement ceci, et ceux qui ont été en Israël, vous me donnerez raison. ce que les médias nous racontent ne correspond pas à la vérité sur le terrain, n'est-ce pas? Pas du tout. C'est pas du tout vrai. Quand, il y a quoi, 2 semaines, les représentants de 70 pays se sont réunis à Paris pour décider ce que les Juifs et les Palestiniens devaient faire pour résoudre leurs problèmes. Imaginez-vous, Israël et les Palestiniens n'étaient pas invités. Et moi, je voudrais, si j'avais l'occasion, je poserais la question à ces représentants de ces 70 pays. Combien de vous ont jamais mis le pied en Israël? Comment est-ce que vous vous donnez le droit de leur dire comment ils doivent résoudre leurs problèmes alors que vous n'avez jamais été sur le terrain? Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Et vous n'invitez même pas les Israéliens et les Palestiniens à venir. Et alors, comme M. Netanyahu, le Premier ministre, a dit, je ne me sens pas du tout tenu à suivre ce qu'ils ont dit, bien sûr, le monde le condamne. Quand ils se sont prononcés en faveur des Palestiniens, M. Abbas dit, c'était très bien. Mais imaginez-vous, juste imaginez-vous, je ne veux pas entrer dans le politique, nous avons des énormes problèmes, comme vous le savez bien, entre les Flamands et les Wallons, depuis des années. Quand on est sur le terrain, on se dit, mais moi je lis le journal en Angleterre, et de temps en temps, des terribles articles, hein, nous allons nous tuer les uns les autres, hein, c'est vraiment fort. Hein. Ah oui, sinon les journaux ne se vendent pas. Il faut écrire comme ça pour les journaux. Et alors, mais imaginez-vous, nous avons nos grands problèmes. Depuis des années, on n'arrive pas à les résoudre. Alors, on va tenir une conférence à Paris, sans inviter les Flamands ou les Wallons, et eux, ils vont résoudre nos problèmes et nous dicter ce que nous devons faire. Et nous allons dire amen. Je ne crois pas. S'ils font ça, ils ne connaissent pas notre monsieur de Weber. Mais c'est si ridicule. Et ce n'est pas pour cela que je dis que nous devons dire que tout ce que font les Israéliens est juste. Ils ne sont pas parfaits. Mais le fond de la dispute, n'est-ce pas? Là, ils ont raison, les Juifs, parce que Dieu leur a donné cette terre. Est-ce que les Flamands peuvent dire nous sommes là par droit parce que Dieu nous l'a donné, ou les Wallons? En tout cas, la Bible n'en parle pas. Mais pour les Juifs, oui. Et je pense que si nous allons contre cela, nous allons contre Dieu. C'est pour ça que la Bible dit priez pour la paix de Jérusalem. Je le fais tous les jours, j'espère que vous le faites aussi. Je ne pense même pas à essayer de leur imposer une solution, mais prier pour la paix de Jérusalem, oui.
Merci. Et puis, bon, il y a eu tout le sionisme aussi, vers 1891. Qui revenait avec les prophéties de l'Ancien Testament et qu'il était temps que les Juifs reviennent en Israël. Ça à partir de 1890 à peu près. Hein. Ils ont commencé à revenir. Et alors il y avait une prophétie comme quoi ils reviendraient sur des ailes d'aigle. Et en fait ils sont revenus de Russie et d'un peu partout en avion. Hein, avant la Première Guerre mondiale, enfin après la Première Guerre mondiale, etc.
Même récemment, les Éthiopiens. Oui. Ça, c'est indiscutable. L'accomplissement de la prophétie, quand on va en Israël, plusieurs fois, je vous ai dit, voilà ça, ce verset-là, l'accomplissement de la prophétie. On le voit de ses propres yeux. Ce n'est pas inventé.
Voilà, je vous propose en tout cas, si vous avez des questions.